Alors, nous avons avec nous en ligne M. Hans Bouillette. M. Hans Bouillette, qui est le directeur des affaires publiques de la Corpic. Bienvenue à Billets de retour, M. Bouillette.
Bonjour, M. Pierre.
Alors, cette année, c'est pas une bonne année pour les propriétaires, puisque le gouvernement a décrété une hausse des loyers beaucoup plus faible pour les locataires en 2021. Comment vous voyez la chose, vous, M. Bouillette?
Ben, il faut comprendre que les taux qui ont été diffusés hier par le tribunal administratif du logement sont des taux qui sont finalement des scénarios fictifs. Donc, les propriétaires ne sont pas tenus de respecter les taux qui ont été annoncés hier. D'autant plus que chaque immeuble étant différent, il y aura aussi, pour ceux qui iront en fixation de loyer, si c'est nécessaire, on parle ici des cas où le propriétaire et le locataire ne s'entendraient pas, il y aura à ce moment-là une application de taux qui, effectivement, si on parle, par exemple, des travaux majeurs de rénovation, vont donner un résultat très, très faible pour les propriétaires. Donc, ceux qui ont fait des travaux en 2020 n'auront pas droit à une augmentation qui est raisonnable selon nous, ce qui fait que on continue à laisser le parc de logements se détériorer. Mais il y a deux choses. Il y a bien sûr le contrôle des loyers par le tribunal, mais il y a aussi le marché. Et le marché a une influence sur les loyers. Lorsque l'économie va bien, comme c'était le cas à pareille date l'an dernier, que le taux d'inoccupation est faible, ça favorise des augmentations de loyers un peu plus élevées. À l'inverse, quand on voit ce qui se passe présentement avec un taux d'inoccupation de 6%, c'est très élevé sur l'île de Montréal en décembre, ça fait en sorte que des propriétaires auront plus de difficultés à louer. Donc, il se pourrait que les augmentations de loyers soient plus faibles cette année.
Et l'année dernière, je pense que le taux d'augmentation qui était admissible, s'il y avait naturellement des rénovations qui étaient faites à un logement, était de 1,2%. Et cette année, on regarde le 0,8%. C'est quand même une assez bonne différence. Et là, on parle de quand même un logement qui a subi quelques rénovations, là?
En fait, pour être précis, non. C'est-à-dire que le 0,8 ne tient pas compte d'une multitude de choses, notamment les primes d'assurance qui ont explosé, ne tient pas compte des travaux majeurs qui auraient pu être effectués dans le logement. Alors, il faut faire attention, ces taux-là n'ont pas de valeur légale. Ils sont des estimations. Et d'ailleurs, la régie du logement, elle s'appelait comme ça à l'époque, avait cessé en 2017 là, de publier les taux parce que ça créait de la confusion. Bon, ils ont été remis depuis et la confusion perdure parce que les gens croient à tort que ces taux-là sont des taux obligatoires prescrits à l'endroit des propriétaires. Un peu comme en Ontario. En Ontario, l'Ontario décrète un taux à chaque année et les propriétaires doivent respecter ce taux-là. Ce n'est pas le cas au Québec. Les ajustements de loyer sont libres, font l'objet d'ententes entre propriétaires et locataires, et uniquement s'il y a refus formel du locataire, là, il y a une fixation par le tribunal et on va appliquer des critères. Mais attention, des locataires qui refusent des augmentations de loyer qui seraient pourtant justifiées devant le tribunal parce que le propriétaire est en mesure de prouver l'augmentation au moyen de facture, il y a un danger pour le locataire. Il s'expose à devoir payer non seulement l'augmentation de loyer, mais également les frais de cours là, qui peuvent s'élever à 79 $. Donc, c'est important de bien s'entendre, de bonne foi. C'est vrai pour le propriétaire et c'est aussi vrai pour le locataire dans le cadre d'une relocation d'un logement.
Mais naturellement, on peut parler d'un préjugé favorable au locataire compte tenu de cette fourchette qui est présentée de 0,8%, savoir que si jamais on doit se rendre jusqu'au tribunal administratif, il y a de fortes chances que ça soit un peu proche de cette fourchette-là de 0,8%, non?
Ça peut être proche et ça peut ne pas l'être aussi. C'est-à-dire que si tous les propriétaires s'adressaient au tribunal, ce serait impensable, mais tous les propriétaires s'adressaient au tribunal, probablement qu'en moyenne, l'augmentation serait peut-être de 1%, effectivement. Mais vous aurez compris que ceux qui vont au tribunal, ce sont des propriétaires qui ont bien fait leurs calculs et qui arrive à un résultat supérieur à ce qui a été annoncé par le tribunal. Alors, je vous donne l'exemple, et en fait, il ne vient même pas de moi, mais bien du tribunal lui-même, qui dit qu'en moyenne, au cours des 6 ou 7 dernières années, les propriétaires qui se sont adressés au tribunal pour faire fixer un loyer suite au refus du locataire ont obtenu, en moyenne, 3% d'augmentation de loyer. Alors, vous voyez, même si des taux sont publiés aujourd'hui, ou en fait hier, ces taux-là ne sont que des estimations. Ils ne reflètent pas la réalité de chaque immeuble. Alors, un locataire pourrait non seulement devoir payer l'augmentation de loyer, mais aussi les frais de judiciaires.
Le cours, oui.
Le propriétaire avait raison. Donc, il faut être très prudent et négocier de bonne foi.
Et vous l'avez dit, ça dépend, et c'est bien normal aussi, des dépenses qui ont été effectuées pour permettre aux locataires d'avoir une meilleure jouissance des lieux loués. C'est correct. Sauf que un propriétaire peut décider d'investir dans son immeuble à des fins de revente, genre, et ce propriétaire-là ne peut pas prétendre la même année de ses investissements là, aller chercher le plein montant investi dans son immeuble?
Non, en fait, le montant, supposons qu'on investit 10 000 $ dans l'immeuble, on ne peut pas récupérer 10 000 $ l'année suivante. Ce que fait le tribunal, et c'est normal ainsi, c'est que le tribunal, en vertu du règlement qu'il applique, va étaler le montant de la dépense sur plusieurs années. Le problème, c'est que à l'époque, ce n'était pas un problème. Là. Dans les années 80, le montant investi en travaux pouvait être récupéré en 8 ans. Donc, après 8 ans, l'augmentation de loyer qui découlait de ces travaux-là me permettait de rembourser ou d'avoir remboursé l'emprunt à la banque ou d'avoir couvert l'investissement. 8 ans. Aujourd'hui, en 2021, c'est 43 ans. Vous aurez compris, les auditeurs aussi, vous en avez qui sont propriétaires de logements d'ailleurs, peu importe ce qu'on va rénover, rien ne va durer 43 ans. Donc, c'est 2 $ de plus sur le loyer par 1 000 $ de travaux.
Et c'est à peine si...
que les propriétaires n'ont plus envie de faire des rénovations et le parc de l'immeuble se détériore.
Et d'ailleurs, c'est à peine si c'est la durée de vie d'un être humain, n'est-ce pas? Oui. Mais ça donne quand même une idée, à savoir que le propriétaire, même si c'est son immeuble à lui, qui a bel et bien l'intention de garder son immeuble vivant et, comment dirais-je, prenable et enviable, tout ça. Mais ce propriétaire-là n'a pas le droit non plus d'investir et faire des folies là, dans un immeuble. On s'entend?
Ben, écoutez, si on veut transformer l'immeuble en condo de luxe, il y a des règles. Là. On ne pourra pas évincer le locataire de toute façon. Le locataire a droit au maintien dans les lieux, a priori. Maintenant, il faut comprendre que si ces rénovations ne se font pas, et je pense à toutes les rénovations qui permettraient d'augmenter l'efficacité énergétique de l'immeuble, par exemple, ben, le propriétaire y perd, mais le locataire aussi y perd parce que le locataire va payer, on le voit dans les vieux immeubles là, qui ne sont pas bien rénovés, paie très cher pour son chauffage, par exemple. On a aussi une nécessité de tenter de remonter les loyers parce que vous avez dans certains immeubles des loyers pour des logements équivalents. Un locataire va payer peut-être 600 $ et l'autre va payer 900. Alors, il y a une iniquité entre les deux locataires puisque lorsque les augmentations de coûts d'assurance, de chauffage, de réparation pour le toit de l'immeuble, les taxes également sont payables par le propriétaire, ben, la répartition de ces coûts-là se fait de façon inéquitable entre les deux locataires. Celui qui paie 900 pour un loyer qui est au niveau du marché paie plus que sa part pour et compense pour son voisin. Ça, c'est pas acceptable. Et malheureusement, ce sont des iniquités qui perdurent en vertu de la méthode de fixation des loyers. Il faut éviter le plus possible d'avoir des loyers qui pénalisent certains locataires et avantagent d'autres locataires dans un même immeuble. Mais évidemment, pour 2021...
Oui. Oui, j'allais justement parler de cette conclusion-là. 2021, qui est une année particulière, alors que les propriétaires avaient vraiment un parc locatif disponible à un niveau très faible, et subitement, ça passe de 1 à 6%. Le propriétaire a en quelque sorte aussi intérêt à négocier, car si le locataire quitte, il risque d'avoir de la difficulté, vous l'avez dit au début, à relouer son logement.
Oui, c'est pas une situation... On a déjà vu des situations pires, là, dans les années 90, mais écoutez, là, à 6 %, c'est sûr que ce qui fait mal, il y a plusieurs facteurs, hein. Donc, l'emploi affecte les jeunes, affecte les jeunes aussi aux études qui ont besoin de logement à Montréal, donc la demande est moins forte. L'immigration aussi est en chute drastique et on a besoin d'immigration. D'abord comme société, mais aussi pour soutenir le marché locatif. On sait que les immigrants s'installent généralement à Montréal pour commencer. Ils sont locataires également. Alors, la demande a chuté drastiquement et ça crée un problème. Mais quand même, je vous dirais que si les augmentations de loyers sont plus faibles un peu en 2021, ça pourrait aussi s'expliquer par le fait qu'il n'y aura pas très peu d'augmentation de taxes municipale cette année. Hein, c'est attribuable notamment au quasi-gel, je dis quasi, là, parce que les arrondissements ont des hausses de taxes quand même, quasi-gel de taxes de la ville de Montréal et de plusieurs autres villes qui ont reçu de l'aide gouvernementale pour la pandémie. Donc ça devrait donner un répit aux propriétaires et par le fait même aux locataires qui absorbaient ou devaient payer sur leur loyer les augmentations de taxes. Je pense que tout se négocie de bonne foi, et on doit pas oublier une chose, c'est que c'est important de garder les logements en bon état. Il y a beaucoup de dépenses de gestion qui ont été faites par les propriétaires en temps de pandémie jusqu'à maintenant. Il faut pas le négliger. Écoutez, on cherche à garder les loyers abordables, mais que voulez-vous, les coûts d'exploitation d'un immeuble augmentent plus vite que l'inflation.
Et Hans Bouillette le sait, moi aussi je le sais, il vaut mieux avoir une mauvaise entente que d'avoir un beau jugement de cour, des fois qu'on ne peut même pas appliquer, n'est-ce pas, dans certains cas. Alors, Hans Bouillette...
Il n'y a rien à ajouter à ces belles paroles.
Hans Bouillette, le directeur des affaires publiques de la Corpic, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi.
Au plaisir, M. Pierre, merci.
Merci, au revoir.